connectés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, nous sommes heureux de ce que déjà la porte de l'église est ouverte. On n'est pas nombreux, mais c'est ouvert. Bientôt, la famille sera réunie. Voilà, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Nous terminons, bien qu'il y ait tellement de choses à dire, mais nous terminons notre méditation. Jean, chapitre 3, voilà, ça fait plusieurs dimanches que nous méditons sur ce texte. Et on lira à partir du verset 27. Jean, chapitre 3, verset 27. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. » Voilà, donc comme nous l'avions dit dimanche dernier, donc nous méditerons sur l'ami de l'époux et sur l'orgueil et l'humilité. Donc nous pouvons voir dans ces quelques versets l'enseignement qui nous est donné par la parole de Dieu et dans le témoignage de Jean-Baptiste, voilà, qui est pour nous un témoignage à la gloire du Seigneur. Le verset à souligner, donc ce verset de base, c'est « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il devienne de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. » Alors c'est vrai que l'homme naturel n'aime pas trop ça, préfère « il faut que l'homme devienne de plus en plus grand ». Mais dans le royaume de Dieu, c'est inversé. Alors pour bien comprendre ce que Jean-Baptiste a dit, je crois que c'est capital pour la vie chrétienne, pour la marche avec le Seigneur, pour la progression, pour la croissance spirituelle. Beaucoup échouent là, à ce niveau-là, et stagnent pendant parfois toute une vie. Mais béni soit le Seigneur, je crois que nous avons le désir de grandir. Je crois que nous avons le désir de progresser, d'aller de l'avant, de voir le Seigneur se glorifier dans notre vie et au travers de nous. Quand le Saint-Esprit peut nous éclairer, quand le Saint-Esprit peut éclairer cette parole dans notre cœur et qu'elle devienne comme elle l'est en réalité, esprit et vie pour nous, alors il y a comme ce déblocage et nous pouvons avancer avec le Seigneur. Alors d'abord le verset 29, l'ami de l'épouse, pour bien comprendre où se situe Jean-Baptiste, donc l'ami de l'épouse, l'ami de l'époux, pardon, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Nous voyons là, bien sûr, Jean-Baptiste a compris beaucoup de choses, éclairées par le Saint-Esprit, par la voix de Dieu, il a compris beaucoup de choses et il a été soumis toute sa vie et son ministère qui est court, mais il a été soumis au Seigneur. Il a compris quelle était la volonté de Dieu à son égard, ce à quoi Dieu l'appelait, et il n'a pas dépassé les limites que Dieu lui avait tracées, lui avait imparties. Il n'a pas dépassé, il est resté dans les limites de la volonté de Dieu pour lui, et il a été béni, et il a été un moyen de bénédiction. Alors pour nous, c'est vrai que connaître notre identité en Christ, c'est tellement important. On se cherche, on peut se chercher toute une vie, hein, mais quand on a trouvé notre véritable identité, elle est en Christ. C'est par lui que nous vivons, c'est par lui que nous évoluons, c'est lui notre vie. Notre identité, c'est Christ. Dans le ciel, notre identité, ce sera pas ce que j'ai été sur la terre depuis mes origines, de ma descendance, mais ma carte d'entrée dans le ciel, c'est Christ. C'est lui qui m'a ouvert les portes du ciel. Alors connaître aussi l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle. Parce qu'il nous est dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. C'est lui qui les a préparées, connaître. C'est tellement important de savoir ce à quoi Dieu nous appelle. Et s'y consacrer, cette œuvre, ce à quoi Dieu nous appelle, doit avoir aussi la priorité dans notre vie. Alors dans le verset 29, bien sûr, l'époux c'est Christ, l'épouse c'est l'Église, c'est nous, nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Bientôt, il vient nous chercher. Et il y aura des noces dans le ciel. Formidable, c'est Christ. Alors, l'épouse, c'est l'Église. Et Jean-Baptiste se considère et se place comme l'ami de l'époux. Rôle très important. L'ami de l'époux, à l'époque, dans le mariage, il y avait tous ces préparatifs pour la rencontre de l'époux et de l'épouse, pour la rencontre nuptiale. Il y avait toute une préparation et c'était l'ami, le meilleur ami, qui préparait toutes ces choses pour que rien ne manque, pour que tout soit parfait. Et puis, il allait chercher l'épouse et il l'amenait jusqu'à l'époux. Et quand la voix de l'époux se faisait entendre, eh bien, là, sa mission était terminée, ça y est, elle était accomplie. Mais pour Jean-Baptiste, non seulement la mission était accomplie, mais tout ce qu'il avait préparé était bon. Quand quand sa voix de l'époux retentissait, ça voulait dire c'est parfait, c'est bon. La mission de l'ami s'arrêtait là, il pouvait partir. C'était, voilà ce qu'il avait fait. Et cela, bien sûr, nous parle au travers de la parole, le ministère de Jean-Baptiste, comme nous en avons touché quelques mots, le ministère de Jean-Baptiste est un ministère de préparation. Il a préparé les voies du Seigneur, il a aplani le sentier, il a rendu praticable, accessible, le chemin du Seigneur. Pourquoi alors ce ministère était indispensable, le précurseur, celui qui arrivait avant Jésus, ce ministère était indispensable. Alors Jean-Baptiste a été le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, donc il a fait le trait d'union, j'allais dire presque, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Son ministère était indispensable. Pourquoi? Parce qu'il est venu révéler les cœurs de ce peuple. Il est revenu révéler les cœurs. Souvenons-nous qu'il y avait des cérémonies, il y avait toujours des réunions au temple, il y avait des réunions, mais Dieu n'y était plus. Alors c'est embêtant quand on se réunit pour Dieu et qu'il n'y est pas. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce peuple ne s'en était même pas aperçu que Dieu n'y était plus. Dans les temples, dans les synagogues, Dieu n'était plus. D'ailleurs, la voix de Dieu ne s'était plus faite entendre pendant les 400 ans. C'est long, 400 ans, quand Dieu ne parle pas. Quand Dieu parle, bon, des fois, la parole de Dieu, elle est... Dieu nous dit des choses, il nous reprend, des fois il nous parle d'une autre manière, il nous parle avec tendresse, mais des fois il nous reprend. Mais béni soit le Seigneur quand il nous parle. Ça veut dire que c'est bon, mais quand il ne nous parle plus... Là, il y a vraiment un problème. Et là, c'était le problème. Tous s'étaient fait leurs idées, leurs convictions, leurs religions. Dieu n'y était pas, mais c'est pas grave. On célèbre quand même les choses, mais Dieu n'y était pas. Et Jean-Baptiste est venu pour révéler les cœurs, leur dire qu'ils étaient dans l'erreur, leur dire qu'ils devaient revenir à Dieu, leur dire que voilà, il fallait se repentir obligatoirement pour que Jésus, le message de l'Évangile, puisse retentir dans leur cœur et pour qu'ils soient sauvés. Dans l'état naturel des choses, ils ne pouvaient pas. Ils avaient un blocage terrible et ils ne pouvaient pas. Il y avait chez les croyants de l'époque une suffisance. Ils disaient, mais nous avons pour père Abraham. Et en disant ça, ils avaient tout dit. Nous, c'est la loi de Moïse. Et ils avaient tout dit. Donc rien ne pouvait pénétrer, rien ne pouvait germer dans leur cœur, ils ne pouvaient pas y avoir une espérance d'une vie nouvelle puisqu'ils avaient tout. Nous avons pour père Abraham. Dans une autre circonstance, Jésus leur dira, mais vous n'avez pas pour père Abraham, mais vous avez pour père le diable. Bon, c'est dans Jean au chapitre 8. Mais là, il disait, voilà, il y avait comme une suffisance. Et il a prêché un message de repentance. En gros, il fallait abandonner tout ce qu'il mettait en avant, même des choses faites pour Dieu, il fallait tout abandonner, ses œuvres méritoires, ses slogans derrière lesquels il se cachait, il fallait tout abandonner. Et nous voyons que ce message de repentance a porté du fruit. Quand vous lisez dans Luc, je vous donne juste les références, Luc chapitre 3, verset 10, verset 12 et verset 14, il nous est dit que la foule, quand Jean-Baptiste a prêché, la foule a dit mais maintenant que ferons-nous ? Au verset 12, c'est plus que la foule, c'est les publicains qui disent mais nous aussi, que devons-nous faire ? Et puis ensuite, il y a les soldats. Que devons-nous faire ? Le message de Jean-Baptiste a porté. Ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur, ils ont compris qu'ils étaient éloignés de Dieu, ils ont compris que ce qu'ils vivaient, de la manière dont ils vivaient, c'était pas bon. Il fallait revenir. Maintenant, que devons-nous faire ? Donc ce message a porté du fruit. Et quand nous regardons bien le message de Jean-Baptiste, il a porté du fruit bien plus loin encore. Quand vous allez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, vous apercevez qu'il y avait quelques disciples qui étaient là dans la région d'Éphèse, dans les hauteurs d'Éphèse. Il y avait quelques frères qui étaient là. Et quand Paul leur dit « Mais de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Du baptême de Jean. Donc et quand ils ont dit « Maintenant, eh bien, vous devez être baptisés au nom de Jésus et recevoir le Saint-Esprit. » Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont prophétisé. Ils étaient 12 environ. Donc ce message a porté du fruit quelques 25 ans plus tard. Ils ont été baptisés par Jean-Baptiste, et ce message est resté dans leur cœur. Ils étaient comme en attente de quelqu'un qui allait venir. Celui qui est plus grand que Jean-Baptiste, c'est Jésus. Combien ce message est important. Tout était prêt, quand Jean-Baptiste est passé, c'était prêt, le chemin était aplani pour recevoir les enseignements du Christ et le Christ lui-même. Dans Matthieu chapitre 17, bon, il y a pas mal de références, ceux qui veulent les prendre, dans Matthieu 17, versets 10 à 13, Jésus dira, il est dit, mais nous avons entendu dire qu'Élie devait venir. Et Jésus dit, mais il est déjà venu. Il parlait de Jean-Baptiste. Mais cela, bien sûr, nous fait penser au ministère du Saint-Esprit. Le ministère de Jean-Baptiste nous fait penser au ministère du Saint-Esprit. Quand Jésus dit, il doit venir, mais il est venu. Il doit venir. Et Jésus promettra, juste avant de remonter, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Et en effet, si Jean-Baptiste avait ce ministère pour préparer les cœurs à recevoir l'évangile de Christ, le Saint-Esprit aussi a ce ministère pour convaincre le cœur naturel de l'homme de péché, de justice et de jugement. Sans cela, c'est impossible de recevoir le Christ, d'entrer dans le royaume de Dieu. S'il n'y a pas une conviction de péché, s'il n'y a pas un changement radical, si l'œuvre du Saint-Esprit ne se fait pas en nous, c'est impossible d'avoir une communion avec Jésus. Donc c'est très 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 important, nous sommes tous à peut-être des niveaux différents, mais c'est très très important, l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, afin que nous puissions jouir de la présence et de la communion avec le Seigneur. L'homme met en avant ses propres convictions, souvent sa vision personnelle des choses, ses traditions, sa religion, etc., son éducation. Tout cela est un obstacle majeur pour la communion avec le Seigneur, pour le salut, une vie avec Jésus, une vie d'intimité. C'est un obstacle majeur, toutes ces choses. Nous voyons dans l'Écriture que Nicodème est venu avec ses pensées vers Jésus. Il avait un cœur honnête, sincère, mais il est venu avec ses pensées. Le jeune homme riche avait aussi sa conception de la vie avec Dieu. Il avait sa conception. La Bible nous dit qu'il est reparti tout triste. Ça a été un obstacle majeur. Il n'a pas été enseignable. Il ne s'est pas repenti. Il n'a pas donné ce qu'il devait donner afin qu'il puisse suivre Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous restons dans les ténèbres. Nous ne comprenons pas vraiment la parole de Dieu, tout ce qui est spirituel, et rien ne se passe dans notre vie. On bénit le Seigneur pour le ministère du Saint-Esprit. On bénit Dieu parce que c'est lui qui rend vivant les choses. La Bible, c'est un livre. Voilà, il y a des phrases, il y a des mots, il y a des pages. Mais quand le Saint-Esprit applique cette parole à notre cœur, c'est esprit et vie. Et il y a quelque chose qui se passe en nous. Il y a donc cet obstacle pour s'approcher de Dieu. Parfois aussi, nous pouvons avoir cet obstacle. Le Seigneur veut purifier notre cœur et pour nous qui sommes chrétiens, parfois il nous faut, il nous faudrait passer du temps dans la prière, et parfois avec larmes, nous tenir devant le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse transpercer notre cœur, le régénérer. Nous en avons tellement besoin et nous habituons facilement aux choses, à la vie, la vie telle qu'on la vit. Mais je crois que le Seigneur a des choses, une vie au-delà de ce que nous pensons ou imaginons pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit nous prépare à un changement de vie total, radical, une métamorphose. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans l'original, quand je lis pas le grec ou romain, mais l'idée c'est de, elles deviennent nouvelles et elles continuent à devenir nouvelles. On est une nouvelle créature et on continue. C'est un verbe dans le grec qui dit cela. Donc nous devons, non seulement Dieu nous a transformés à la conversion, mais il continue de nous transformer. Et nous en avons tellement besoin pour être à l'image donc de Christ. Regardez le jour de la Pentecôte. Comme avec Jean-Baptiste, le jour de la Pentecôte, il nous est dit qu'ils ont, acte 2, 37, ils ont entendu la parole, mais il fallait un attouchement du Saint-Esprit pour qu'ils soient concernés, qu'ils soient convaincus. La Bible nous dit même ils ont été transpercés par le Saint-Esprit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » On retrouve la même attitude, après avoir entendu le message de Jean-Baptiste, les trois ou quatre catégories de personnes ont dit, mais maintenant, que devons-nous faire? On ne peut plus continuer à vivre comme on a toujours vécu, parce qu'on a entendu et Dieu nous a parlé. Donc quand Dieu parle, eh bien, l'homme se plie, obéit. Donc maintenant, le jour de la Pentecôte, appuyé par le Saint-Esprit, bien sûr, eh bien, hommes, frères, que devons-nous faire maintenant? On a entendu, on a compris, on doit se... Et Pierre leur dit... Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ils ont été convaincus par le Saint-Esprit. La parole a été directe. Pierre a dit, mais ce Jésus, c'est vous qui l'avez crucifié. Vous l'avez tué en le pendant au bois. C'était direct. Hein. Et ils ont été convaincus, bien que de péché, de justice et de jugement. L'orgueil est un obstacle majeur. Et c'est, tout péché, il englobe tout péché, cet orgueil. L'humilité, c'est la porte ouverte à l'action du Saint-Esprit, à la vie de Dieu dans notre cœur. Dans le livre des Proverbes, il est dit, Proverbe 29, verset 23, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Waouh, c'est... À l'origine de tous les péchés, il y a l'orgueil. On le voit dans le ciel déjà, Lucifer, qui était le plus beau des anges, un ange radieux, et il a voulu s'élever. Donc déjà, péché d'orgueil, il a été précipité. Quand nous voyons dans le jardin d'Éden, pareil, l'orgueil. Ouais, on peut se passer de Dieu, quoi. C'est finalement l'orgueil. Dieu a dit ça, mais bon, il a dit ça, mais est-ce qu'il a vraiment dit ça, dit le diable? Bon, peut-être, ouais. Tant ça veut dire autre chose. Et donc, comme une suffisance, et donc, ils ont été chassés donc du jardin. Et nous voyons chaque fois au travers de la méditation de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, les peuples qui se sont révoltés, l'orgueil contre Moïse, contre Dieu dans le désert, contre David, l'orgueil, toujours l'orgueil. Dieu a établi les choses, mais nous, on va aller contre. Et donc, il y a toujours eu l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Peut-être me direz-vous, moi, je ne suis pas orgueilleux. Peut-être qu'on peut se le dire, Mais le problème, c'est que quand nous sommes dans l'orgueil, on l'ignore. C'est ça le problème. Il y a, le Saint-Esprit nous révèle ces choses. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un orgueil spirituel. Je sais, je connais, ça fait tant d'années que je marche avec le Seigneur, je sais ce qu'il faut faire, je sais comment prier, je sais. Alors que je crois, et je l'ai déjà dit bien sûr, mais je crois qu'il nous faudrait avoir cette attitude de dire je sais beaucoup de choses. Dans les choses de la terre, dans les choses, voilà, je suis instruit dans ça, mais sur le terrain de Dieu, frères et sœurs, que nous puissions tout dire, je ne sais pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour la prière, moi j'ai besoin de Dieu, on ne sait pas prier. On peut dire, oui, mais ça fait tellement, il y a des automatismes. D'ailleurs, les disciples, quand ils ont vu Jésus prier, ils lui ont dit, mais Seigneur, enseigne-nous à prier. On ne sait pas prier. Nous, on prie, on dit des mots comme ça. Mais Seigneur, enseigne-nous à prier. Alors, ils ont été impressionnés. Mais dans tous les domaines de la vie chrétienne, on ne sera jamais des spécialistes ou des professionnels. Jamais, jamais, jamais. Aucun ministère ou qui que ce soit ne sera un professionnel. On est devant Dieu, on est peu de choses, mais il nous aime. Mais on ne sait pas les choses. Comment être conduit par l'Esprit? Comment voir la gloire de Dieu? Comment prier pour quelqu'un? Comment apporter la paix? On ne sait pas. On a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient là où il y a de l'humilité. Sinon, c'est comme la colombe, il est dit, cette image de la colombe, elle s'effarouche vite. Alors, Jean-Baptiste est pour nous un exemple. Jean-Baptiste est un exemple. Il est appelé grand. Alors j'ai juste relevé peut-être deux versets, mais je crois que j'en avais dit un. Mais Jean-Baptiste, il est appelé grand. Par qui? Il est appelé grand par Dieu. Avant sa naissance, l'ange va prophétiser à Zacharie. Il lui dit, alors j'ai noté la référence, dans Luc au chapitre 1er, verset 15. L'ange dira, car il sera grand devant le Seigneur. Première référence à Jean-Baptiste, il n'est pas né, mais l'ange va dire, il sera grand. Ensuite, un témoignage de Jésus, dans Matthieu chapitre 11 et verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Waouh, témoignage de l'ange, bien sûr c'est Dieu qui témoigne, et témoignage de Jésus, vis-à-vis de Jean-Baptiste, il n'en est point paru de plus grand. Il y a de quoi faire gonfler les chevilles, hein? Ben pas pour Jean-Baptiste. Vous voyez, la parole nous dit que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Bon, on ne va pas lire tous les textes, mais je vous donne une référence. Jésus a mis en évidence l'orgueil des disciples. En évidence, hein, dans Luc chapitre 9, versets 46 à 48, il se posait la question de savoir quel était le plus grand parmi eux. Vous voyez, quelle question importante. Qui est le plus grand? Et Jésus prend un enfant pour modèle, il leur montre, il leur dit « voilà comment vous devez être, comme un petit enfant ». Et plusieurs fois, il a pris un enfant, et il l'a montré un exemple aux disciples. Vous voyez, si vous ne devenez comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, c'est dans Marc au chapitre 10, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Voilà Jésus, ce qu'il va donner comme exemple. Aujourd'hui, on voit que les hommes se permettent tellement de choses dans le monde, tellement de choses que Dieu a instituées, et ils vont à l'encontre. Et nous arrivons à des limites là, c'est un signe aussi du retour du Seigneur, je n'entrerai pas dans les détails de ce que les hommes font, mais abomination aux yeux de Dieu, Dieu a institué des choses, il a mis en place, et les hommes font fi de cela, ils vont au-delà. Ça c'est extrêmement grave, l'orgueil de l'homme, non seulement voilà, Dieu n'existe pas, mais on va au-delà, il a établi des choses, et bien nous on va au-delà. Mais je dirais aussi dans le milieu chrétien, y a-t-il encore ou beaucoup de crainte de Dieu au milieu du peuple de Dieu? On est capable de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas? capable de toucher aux institutions, à ce que Dieu a établi, à l'Église. On est capable de toucher à ça sans aucune crainte. L'orgueil nous pousse, même dans le milieu chrétien, on élève les hommes, les ministères, tout cela, mais c'est Christ qui doit être élevé au milieu de nous. Ce qu'il a établi, c'est Christ. Le Seigneur de l'Église, c'est Christ. Et il nous faut toujours le souligner, le garder dans notre cœur. On tolère aujourd'hui des choses que Dieu ne tolère pas. Au milieu du peuple de Dieu, quelqu'un a écrit, un homme de Dieu a écrit, « Ils ont modifié la vérité. » Alors que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. On ne veut pas élever des hommes, mais on veut élever Christ. L'enseignement du Christ, vous savez, va à contre-courant de la pensée humaine. L'enseignement du Christ va à contre-courant. Quand on lit ces enseignements, on se dit, mais c'est pas naturel, c'est pas dans la vision des hommes. Quand on lit le sermon sur la montagne, Jésus en a parlé, par exemple dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Nous on dirait, eux ils vont être moqués. On va se moquer d'eux. Qu'est-ce que c'est ça ? Il a pas de personnalité, il a rien dans le ventre, c'est... Mais pour Christ, voilà, celui qui est grand, c'est ça. On lit aussi toujours dans Matthieu chapitre 5, verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Ils demandent de pardonner, ils demandent eh bien, d'aimer celui qui n'est pas aimable, ils demandent de donner à celui qui n'a pas, ils demandent de faire grâce, de s'occuper des veuves et des orphelins. Ça va à contre-courant de la pensée de ce monde, c'est un message autre, c'est un message qui nous vient du ciel, c'est un message qui nous vient du cœur de Dieu. Ça se trouve pas, ce message, il est unique. Le message de Christ, l'évangile, il est unique. Et quand on le vit pleinement, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Et l'Église a besoin de ça, de vivre ce message simple mais tellement puissant. Un message qui va à contre-courant de la pensée de ce monde. Mais Christ nous a dit d'aimer ce monde et de vivre le message de l'Évangile. Vous savez, Jean-Baptiste, il n'avait rien pour plaire. Quand on voit son accoutrement, ses habits, sa nourriture, il n'avait rien, c'était pas, il ne venait pas en avion, vous voyez, pour... c'est vrai qu'on peut sourire, mais j'ai vu des ministères arriver en avion privé et tout. Ça a à voir quoi avec l'Évangile ? Lui, il est arrivé comme ça, et ce qui est beau, c'est de dire, il vivait à contre-courant, c'est vrai, il n'était pas... dans le moule, hein, Jean-Baptiste, mais les foules venaient en masse vers lui. Il y avait quelque chose, une attraction de Dieu, c'est pas possible. Lui, il avait rien pour plaire, il avait rien. Et les foules venaient dans le désert pour écouter le message qu'il avait à prononcer. Moi, je dis, c'est beau. Il s'est jamais élevé, il a jamais eu des signes extérieurs de gloire, d'argent, de quoi que ce soit. Et les foules allaient vers lui. Ce n'est pas populaire dans ce monde, ce message, il n'est pas populaire. Le monde cherche l'argent, la réussite, les applaudissements, les honneurs, quitte à appuyer sur les autres pour s'élever. Mais le message de Christ, il va à l'inverse complètement. L'humilité précède la gloire. Pour vivre le message de Christ, il faut la repentance, et ce n'est pas la repentance d'un jour. Moi, je me suis repenti le 12 février 1984, mais ce n'est pas suffisant, c'est un esprit de repentance qui est là dans notre cœur. C'est qu'on est toujours prêt à se remettre au diapason avec Dieu. Quand on a fait fausse route, on se remet au diapason avec le Seigneur. Ce n'est pas « je me suis repenti une fois et maintenant je... » Non, non, on a toujours besoin, toujours, pour nous caler sur les exigences de Dieu avec la grâce et le secours du Saint-Esprit. Dieu fait grâce aux humbles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients de leurs besoins de Dieu. Ceux qui sont humbles sont conscients de leurs besoins. Et comme nous l'avons lu, heureux les pauvres en esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont pauvres par eux-mêmes et ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de Christ. Et ceux qui sont humbles reconnaissent donc leurs besoins. L'humilité vient du fait que nous comprenons qui est Dieu et nous comprenons en même temps qui nous sommes. Ça, c'est l'humilité, c'est là. Jean-Baptiste a clairement compris la souveraineté, la puissance, la sainteté, la justice, l'amour de Dieu. Il a clairement compris cela de Christ. Et en même temps, il a compris qui il était. Tant que le Saint-Esprit n'a pas pu nous éclairer sur Dieu, sur Christ, je ne pourrai jamais être humble. Jamais, parce que l'humilité ne se trouve pas ici-bas. La nature humaine, c'est une nature orgueilleuse, plus ou moins, mais c'est une nature orgueilleuse. Or, quand j'ai la révélation, l'illumination, la conviction du Saint-Esprit, eh bien, à ce moment-là, je peux plier les genoux devant le Seigneur. Jean dira, dans 3:27, on l'a lu, Jean 3:27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Ça ne peut pas venir d'en bas. On ne peut pas provoquer les choses. On ne peut pas... Ça vient d'en haut. Une conversion vient de Dieu ou ne vient pas. Une régénération, ça vient de Dieu. Tout ce qui est, c'est lui qui nous le communique. S'il peut nous le communiquer, il le fait, et au travers du ministère du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à plier le genou devant le Seigneur. L'humilité découle de la compréhension de qui nous sommes en présence de Dieu. Dans la parole de Dieu, plusieurs ont réalisé vraiment la nature de Dieu et dans sa présence, et ils se sont humiliés. Vous avez Ésaïe 6, vous avez Josué 5, vous avez Luc 5, Apocalypse 1, il y a tellement où ils se sont humiliés parce que Dieu s'est révélé un peu plus à leur cœur, dans leur vie, et quand on voit la grandeur, la puissance, la souveraineté, l'amour, la sainteté de Dieu, on ne peut pas rester tel qu'on est. On va s'humilier, on va se repentir. Et si le Saint-Esprit agissait avec puissance, là, ce matin, au milieu de nous, on tomberait à genoux et on pleurerait devant le Seigneur. Mais moi, je prie pour que ce ministère du Saint-Esprit puisse avoir de plus de place dans nos cœurs, descendre un peu plus dans l'Église, pour que nous puissions voir la grandeur, la beauté, la puissance de Jésus. Sa gloire au milieu de son peuple. Les hommes s'effacent, là c'est fini. Les hommes s'effacent quand Christ paraît. Les hommes s'effacent. Quand Christ a paru, Jean-Baptiste il s'est mis de côté. Voilà, c'est fini. La mission, c'est Christ maintenant qui fait. Oh, que Dieu nous aide. Un homme, une femme réalise qu'il a tout à apprendre de Dieu. Un homme humble, une femme humble réalise qu'il a tout à apprendre. Il est vrai que nous pouvons trouver des prétextes pour dire « moi je peux pas prier, j'ai pas le temps, je sais pas, j'ai pas le temps de lire la Bible ». Mais en réalité, c'est pas les prétextes « je n'ai pas le temps » ou « je ne sais pas » ou parce que en réalité c'est que je n'en ressens pas vraiment le besoin. Parce que quand on a un besoin réel, même s'il faut aller à 300 km, si c'est un problème de santé ou un problème autre, important dans notre vie ou dans notre famille, on va le faire. On ne va pas regarder l'horaire, la fatigue, on y va parce que c'est un besoin. Frères et sœurs, si nous ressentons le besoin, si l'humilité grandit dans nos cœurs, nous ressentirons le besoin de prier, le besoin de méditer sa parole parce que c'est Dieu qui nous parle. On en ressentira de plus en plus le besoin. Enlevons tous les prétextes, enlevons toutes les excuses. J'ai pas le temps, je suis fatigué. Non, quand il y a ce feu, même avec la fatigue, endormons-nous sur la parole s'il le faut, mais méditons la parole. Prions le Seigneur. Nous en avons tellement besoin. Chaque jour, à chaque heure. « Oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Viens et demeure auprès de moi. Nous en avons besoin. Enlevons tous les prétextes, parce que finalement, c'est comme ces gens religieux. Ils mettaient des prétextes, mais ça n'a pas de valeur devant Dieu. Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés pour prendre soin de nous, pour nous guider, pour nous former, pour nous façonner. C'est ce que Dieu veut, que dans sa main, on soit. C'est pas, « Seigneur, je n'ai pas le temps de prier, je ne prie pas. » Donc je me passe de ta présence, je méditer, non, j'ai pas le temps. Méditer là, comment, on n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu? On n'a pas le temps. Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on se dit pareil pour manger? On se dit, bon, je n'ai pas le temps de manger, je ne mange pas demain non plus, je mangerai la semaine prochaine. Ça vous arrive, ça? Pas moi. Hein. On prend le temps, parce que c'est nécessaire pour le corps. Mais pour notre âme, c'est encore, j'allais dire, davantage. Sauter un repas, ce n'est pas grave. Des fois, ça fait du bien même. Mais se passer de la parole de Dieu une journée, Dieu veut nous dire des choses. Et tout ce que Dieu nous dit, c'est important. Tout ce que Dieu nous dit, c'est important. Donc, enlevons tous ces prétextes, tous ces faux prétextes. C'est pas que j'ai pas le temps, j'en ressens pas vraiment le besoin. Saint-Esprit, aie un accès dans mon cœur. Aie un accès. Voilà, qu'une brèche se fasse. Quelque chose que tu puisses prendre, me donner cette vie. Je veux pas être suffisant. Je veux pas me dire, voilà, c'est pas grave si je prie pas, si je médite pas la Bible, si je viens pas dans la communion fraternelle. C'est pas grave. Jean-Baptiste avait toutes les raisons de s'élever. Il a été appelé grand, on l'a lu. Il était le précurseur du Messie. Il était l'ami de l'épouse. Les foules venaient à lui de partout. Il avait toutes les raisons de s'élever. Et on voulait l'élever. Et lui dit, non, je ne suis pas le Christ. N'essayez pas de me faire prendre la place de Christ. Je ne suis pas le Christ. Voilà, moi, ma mission, elle est là. Moi, je fais ce que Dieu me demande, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas produire ce qui est spirituel, ce qui est divin, je ne peux pas le produire en bas. Moi, j'obéis à ce que Dieu me dit. Et le reste vient d'en haut. Que Dieu nous aide, les uns et les autres. Il a compris qui était Christ et qui il était. Et celui qui est humble, il est enseignable. J'allais dire, il est tranquille. Il ne se plaint pas, pourquoi? Parce que sa vie est entre les mains de Dieu, il ne revendique rien, mais il cherche la face de Dieu, il est satisfait, il est en paix, celui qui est humble, il est en paix, parce que, voilà, ma vie est dans les mains du Seigneur, je ne vais pas me plaindre des circonstances, des autres, c'est ma vie entre les mains de Dieu, et voilà, je suis tranquille parce que j'y crois, je crois que ma vie entre les mains de Dieu me donne la plus grande paix, je crois qu'il me... Il me satisfait pleinement quand nous marchons dans l'humilité et nous devons grandir tous les uns les autres, mais quand nous marchons dans l'humilité, il y a cette satisfaction, cette joie d'entendre la parole de Dieu comme l'ami de l'époux. Il entend la parole de Dieu et il est dans la joie. Il dit, il ressent cette joie et cette joie est complète. Quel grand privilège, et je vais terminer, quel grand privilège que Dieu nous parle. Le Dieu du ciel, le Dieu créateur, le Dieu souverain, il nous parle à nous. Il prend le temps de nous interpeller, de nous parler. Rien que ça, ça devrait nous calmer beaucoup. Il faut qu'il croisse, c'est impératif. Et que je diminue, c'est impératif. Le moi, l'orgueil, la suffisance... La rébellion, mes plaintes, les circonstances et les autres doivent disparaître. Je veux me tenir devant le Seigneur. Je veux bénir mon frère et ma sœur. Je veux me tenir devant le Seigneur. Et lui, eh bien, prend soin de ma vie. Finalement, mon combat, c'est de travailler à grandir dans l'humilité et à rejeter toutes les occasions d'orgueil qui se manifestent dans ma vie. Quand je grandis dans l'humilité, c'est Jésus qui grandit en moi. Et mon moi diminue. Vous savez, Dieu a fait de nous, nous étions des pécheurs, il a fait de nous des saints. S-A-I-N-T. Mais j'allais dire que le grand travail, c'est de faire de nous, d'être charnel à être spirituel. Que le Saint-Esprit puisse agir. Alors je termine en parlant de Jésus, bien sûr, le Sauveur, le Seigneur, le modèle. Jésus était doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Ce n'était pas une posture, ce n'était pas de la fausse humilité, mais il l'a manifesté tout au long de sa vie sur la terre, de son ministère. Il était doux et humble de cœur. Il était complètement dépendant de son Père. Il ne faisait absolument rien qu'il n'ait entendu l'ordre du Père. Il dit « Je ne fais rien de moi-même, mais je fais tout ce que j'ai entendu. » Quel exemple pour nous. Bon, bien sûr, on en est loin, mais si on a le désir, le Saint-Esprit nous amènera aussi. Ah, moi, je crois. Dans Philippiens 2,5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et quelle était son attitude? Philippiens nous le dit, quelle était, au verset 7, il dit « S'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, doulos, esclave, volontaire, en devenant semblable aux hommes, comme un simple homme, comme un vrai homme, il est devenu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà, j'allais dire, en résumé, pour être humble, il faut que l'œuvre de la croix soit plantée en moi. Sinon, je ne pourrai jamais être humble et devenir de plus en plus humble. Si la croix n'a pas fait son œuvre et être plantée dans notre cœur, impossible. La nature humaine, elle est orgueilleuse. Elle se cache, elle sait faire, elle sait nager, elle sait la nature humaine, hein, charnelle. Mais l'œuvre de la croix, c'est cette l'œuvre seule qui peut vraiment me donner. Et d'ailleurs, c'est le dernier verset que j'ai dans Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est Paul qui parle, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, voilà le résumé. Ils l'ont vécu. Ils ont marché sur cette terre en glorifiant le Seigneur. Est-ce que c'était des hommes parfaits? Non. Mais ils étaient dépendants de Dieu. Et Dieu les a conduits. Dieu leur a parlé. Dieu a fait son œuvre dans leur cœur et au travers d'eux. Que nous puissions avoir le désir déjà de dire, Seigneur, il faut que tu croisses en moi. C'est impératif. Bon, il n'y a aucun qui peut me dire, Jésus a assez de place dans ma vie. Non. Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue. C'est indispensable. Seigneur, eh bien, je vais prier dans ce sens. Seigneur, je veux me tenir devant toi dans ce sens afin que tu puisses prendre cette place qui t'est due, non seulement dans mon cœur, mais dans l'Église aussi. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et l'Église lui appartient et c'est lui qui la tient dans ses mains. On va prier le Seigneur et je ferai juste quelques annonces.